Bonjour, bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens, émission du 10 mai 2018. Hélène Denis qui vous accompagne, j'espère que vous allez bien. Alors, je salue Maurice Bolduc. Bonjour, Maurice.
Oui, bonjour.
Vous êtes en forme.
Oui.
Mais vous avez peinturé hier, vous me disiez, en dehors des ondes.
Oui. Dur pour les genoux.
Ça rentre dans le corps. Oui. Mais vous allez vous en sortir?
Oui. Ça nous fait redécouvrir des muscles qu'on avait oubliés. Mettons.
Alors, la chronique éphéméride, est-ce que vous avez eu assez d'énergie, de force pour la préparer?
Oui, elle était déjà prête.
OK, il y a quelqu'un qui vous l'avait préparée?
Non, mais on les garde, on les archive.
Ah oui, c'est vrai, hein, d'une année à l'autre, il y a des choses qui s'ajoutent.
Oui, qui s'ajoutent, mais sinon, l'histoire, on ne peut pas changer l'histoire.
Non, ça c'est sûr.
Sauf pour les révisionnistes.
Ouais.
C'est ce qu'on ne fera pas ce matin.
D'accord, on vous écoute.
Donc, ce 10 mai, c'est la journée mondiale du lupus. Moins drôle, c'est une maladie rare, auto-immune, maladie de la peau, si ma mémoire est bonne. Les événements ce 10 mai, en 1497, le navigateur Amerigo Vespucci entreprend son premier voyage vers le Nouveau Monde. Il laissera son nom.
Amérique.
Oui, absolument. C'est le petit volet historique. Découverte en 1503, Christophe Colomb atteint les îles Caïmans. En 1534, parti le 20 avril de Saint-Malo, Jacques Cartier atteint le cap de Bonavista à Terre-Neuve. En 1774, c'est la mort du roi Louis XV qui sera remplacé par Louis XVI, tout simplement, qui lui va régner une quinzaine d'années environ. En 1844, la capitale du Canada déménage de Kingston à Montréal pour une période de 5 ans. En 1871, par le traité de Francfort, l'Allemagne annexe l'Alsace et la Lorraine. En 1940, après la démission de Neville Chamberlain, Winston Churchill devient premier ministre britannique. En 1963, faisons un peu léger, c'est le premier 45 tours des Rolling Stones. En 1967, l'aviation américaine commence le bombardement du port de Haiphong au Nord-Vietnam.
Avez-vous donné le titre de la chanson qui paraissait sur le 45 tours?
Non, c'est pas écrit. Faudrait faire une petite,
il y a deux chansons, face A, face B. Faudrait faire la recherche. Ouais.
Et même aussi, à cette époque-là, des fois, les 45 tours avaient mettons quatre pièces, il y avait deux tonnes par côté.
Ah oui, j'ai jamais entendu ça.
Oui, j'ai déjà vu ça, ouais. Je sais pas, ça peut peut-être pas durer longtemps, là, mais...
Eh bien, bon. M'en apprenez.
C'est l'époque du vinyle. Donc, on sait que les gouvernements aiment beaucoup les transports. Et en 1980, là, c'est un peu choquant, Ottawa accorde des garanties de prêts de 200 millions à Chrysler pour sauver la constructeur de la faillite. Et aux États-Unis, les prêts seront à hauteur de 1,5 milliard de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. En 1994, il y a une éclipse solaire au Québec qui a suscité de nombreux débats de précaution pour la santé oculaire des jeunes. En 2004, à Montréal, l'ancien fonctionnaire Charles Guité et le publicitaire Jean Brault sont accusés de fraude dans l'affaire des commandites. C'est la naissance de l'enveloppe brune en 2005. Devant la commission Gomery, l'ex-ministre et organisateur libéral Marc-Yvan Côté avoue avoir trimballé 120 000 $ en liquide dans une épaisse enveloppe pour la campagne libérale fédérale en 1997. En 2007, la Cour supérieure refuse à Québécois une injonction interdisant aux locataires du Journal de Québec de distribuer leur journal Média Matin. En 2012, des attentats à la bombe fumigène paralysent le métro de Montréal à l'heure de pointe matinale. Et en 2016, l'annonce de la NASA, grâce au télescope Kepler, de la découverte de 1284 nouvelles planètes. Donc, beaucoup, beaucoup de planètes, potentiellement de la vie ailleurs. Et on souligne deux naissances. La naissance de Fred Astaire, le danseur, qui est né en 1899, qui nous a quittés en 1987. Et Mme Antonine Maillet, c'est sa fête aujourd'hui. Elle est née en 1929. Ça lui donne 89 ans.
Il aura 90 ans cette année. L'année prochaine, c'est-à-dire, oui. Ouais.
Donc, c'est quand même très respectable. Joyeux anniversaire, Mme Maillet.
Oui, merci, M. Bolduc. Thank you. À la une de la presse plus exclusive, ça va être une journée assez bordélique. Des milliers de camions à benne rouleront au ralenti lundi matin aux abords de l'échangeur Turcot et des 60 centres de services du ministère des Transports du Québec. À l'origine de cette manifestation monstre, une déréglementation qui suscite la grogne des petites entreprises de camionnage en vrac. Le turban d'un ministre provoque un incident diplomatique. Navdeep Bains dénonce une expérience humiliante dans un aéroport américain. Analyse Denis Lessard, une autre exclusivité. Taillefer présidera la campagne du PLQ. La chronique d'Yves Boisvert, intitulée « Tous dans le même bateau ». Et dans la section Affaires, des revenus en chute libre pour les journaux de Québecor. Sous la plume de Bruno Bisson, des milliers de camionneurs artisans vont assiéger les centres de services du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec, anciennement MTQ, lundi matin pour s'opposer à une déréglementation qui permet aux entreprises de construction de faire appel à des entreprises non inscrites pour effectuer du transport de pierre, de sable ou d'asphalte sur les chantiers routiers. L'Association nationale des camionneurs artisans, ANCAI, A-N-C-A-I, qui regroupe 5200 petites entreprises de camionnage en vrac, a lancé le mot d'ordre au cours des derniers jours dans ses 88 bureaux régionaux dans la province pour une journée de manifestation massive où les 60 centres de services du ministère seront des cibles de prédilection. En entrevue à la presse, hier, le directeur général de l'ANCAI, Gaétan Légaré, n'a pas fait mystère de la possibilité d'un blocus dans le secteur de l'échangeur Turcot. Aux abords du centre de service du ministère dans la rue Pullman, juste au pied de l'échangeur. Le chantier de construction du nouvel échangeur Turcot est un de ces chantiers majeurs où les camionneurs artisans se plaignent d'être régulièrement mis à l'écart au profit d'entreprises n'ayant aucun compte à rendre à la Commission de la construction du Québec. C'est sûr qu'il va y avoir une petite promenade qui va se faire là, a-t-il affirmé à la presse. La présence de centaines de camions à benne roulants au ralenti ou immobilisé près de l'échangeur pourrait provoquer des embouteillages monstres à l'heure de pointe du matin dans ce secteur où passent quotidiennement plus de 300 000 automobilistes et camionneurs, ou 300 000 automobiles et camions. Gaétan Légaré a assuré hier que l'ANCAI souhaite que ces manifestations dérangent le moins possible la population et que les camionneurs doivent respecter le libre passage des véhicules et s'assurer de ne pas nuire à des interventions des services d'urgence comme les ambulances ou les camions de pompiers. Mais il faut que le message passe. Taillefer présidera la campagne du PLQ. Il tournait autour depuis des mois, il va faire le saut. Alexandre Taillefer va épauler le Parti libéral du Québec. L'ex-dragon, qui a construit sa fortune dans les technologies de l'information, sera président de la campagne électorale du Parti de Philippe Couillard. La fonction est plus qu'honorifique. Daniel Johnson, qui l'occupait aux élections de 2014, était présent tous les jours dans la « war room », entre guillemets, aux réunions de stratégie du PLQ, où il traitait d'égal à égal avec le directeur de la campagne, Christian Lessard, et le chef de cabinet de Philippe Couillard, Jean-Louis Dufresne. Cette fois, ce sera Hugo Delorme, un ancien de la firme nationale, qui sera directeur de campagne. À la différence de M. Taillefer, il connaît le PLQ. Les gens qui le côtoient savent qu'il aspire à diriger un parti politique, idéalement celui qu'il aurait pu fonder. Conscient de l'immensité de la tâche, il a tourné son dévolu vers le Parti libéral plus proche de ses convictions. L'annonce de M. Taillefer devrait tomber en mai, laisse-t-on entendre, ce serait la première bonne nouvelle depuis longtemps pour l'organisation du PLQ et pour Philippe Couillard, plutôt humilié par les développements récents. Le changement de propriété de la presse de Power Corporation à une fiducie d'utilité sociale devra préalablement être discuté en commission parlementaire, a prévenu hier le Parti québécois. Pour changer sa structure de propriété, comme il l'a annoncé mardi lors d'une rencontre avec les employés, le propriétaire actuel de la presse doit d'abord obtenir l'accord des parlementaires pour abroger une loi privée adoptée en 1967 qui encadre sa structure de propriété. Mardi, le gouvernement Couillard a indiqué qu'un nouveau projet de loi pourrait être rapidement adopté si la direction du journal convainquait les partis de l'opposition. Plus tôt en journée, M. Lisée s'était aussi dit gêné que le gouvernement fédéral soit en train de créer un système dans lequel seuls les médias organisés sous forme d'organismes sans but lucratif vont pouvoir avoir de l'aide pour survivre à la crise budgétaire qui les secoue. Je comprends que les médias essaient de se faufiler dans les filets que le gouvernement fédéral a posés pour avoir de l'aide. Mais est-ce qu'on veut embarquer dans cette logique qu'Ottawa essaie d'imposer aux médias canadiens et québécois? C'est questionné le chef péquiste. Pour le chef de la coalition Avenir Québec, François Legault, il faut s'assurer d'une indépendance de cette nouvelle organisation, a-t-il dit en faisant référence à la structure d'organismes sans but lucratif que la presse veut créer, autant son conseil d'administration que sa direction. Le maire de Québec, Régis Labeaume, a exigé et obtenu des organisateurs du G7 la tenue d'une séance d'information dans sa ville la semaine prochaine pour rassurer les citoyens et les commerçants inquiets des manifestations. La Malbaie accueillera le sommet du G7 les 8 et 9 juin. La ville de Charlevoix sera sous haute surveillance policière pour l'occasion et une clôture de 4 millions de dollars a été érigée autour du manoir Richelieu. Mais à Québec, où auront lieu la plupart des manifestations, les citoyens manquent d'informations et plusieurs sont inquiets, estime Régis Labeaume. Lors d'un entretien mardi avec le Sherpa du G7, Peter Baum, le maire de Québec lui a demandé d'organiser une rencontre publique. Elle aura lieu mercredi soir prochain, le 16 mai, dans un endroit qui reste à déterminer. La Commission scolaire de Montréal, CSDM, autorise la création de 200 postes pour la prochaine année scolaire, même s'il s'agit d'un plan de l'effectif positif, une première en 5 ans. Ces nouvelles ressources demeurent nettement insuffisantes pour réparer les dégâts laissés par les années d'austérité libérale, estiment les syndicats. Nos travailleurs sont épuisés. Depuis des années, on nous dit qu'en raison du déséquilibre budgétaire, on ne réussit pas à réembaucher. Là, on atteint l'équilibre budgétaire et pourtant, on est loin des annonces attendues, a affirmé en point de presse le président de l'Association professionnelle du personnel administratif, Michel Picard. De 400 à 500 postes supplémentaires seraient nécessaires pour desservir l'ensemble de la clientèle de la CSDM, admet d'ailleurs la présidente Catherine Harel-Bourdon. Le caricaturiste de la presse Serge Chapleau est l'une des 11 personnalités qui recevront en juin un doctorat honorifique de l'Université Concordia. Son collègue de la Montreal Gazette, Terry Mosher, qui figure aussi au nombre des récipiendaires, et lui ont été sélectionnés pour leur plume acérée et leur regard critique sur l'élite sociale et politique. Les distinctions seront remises lors des cérémonies de collation des grades du printemps du 11 au 13 juin à la Place des Arts. Parmi les autres récipiendaires du doctorat honorifique, notons la directrice du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, Edith Cloutier, le grand chef autochtone Wilton Littlechild et l'artiste Peter Schumann. Élection en Malaisie, l'alliance de l'opposition menée par Mahathir Mohamad, 92 ans, a remporté les élections générales hier en Malaisie, mettant un terme à 6 décennies de la coalition au pouvoir sans interruption depuis l'indépendance.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou, des seigneurs et des princesses, y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment. Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs torrent de tendresse pour que règne l'amour jusqu'à la fin des jours.
Le trio Esperanza qui nous interprétait Tendresse.
Quelle belle chanson, Tendresse. Une chanson, c'est Maurice qui me disait qu'elle a été interprétée par Bourvil en 1963 et puis un peu plus tard par la belle Marie Laforêt. En une du devoir de ce jeudi 10 mai, les réactions au désaveu de Trump, une photo qui en dit long, les Européens ont repris en main, sans les Américains, les discussions avec Téhéran pour éviter que l'Iran ne relance sa course à la bombe atomique. Dans la capitale iranienne, des citoyens ont manifesté leur colère contre la décision américaine en brûlant le drapeau des États-Unis. Accommodement raisonnable, la règle du cas par cas s'appliquera. Québec publie les lignes directrices devant encadrer les demandes. Rapport de la vérificatrice générale Barrette placée sur la défensive. Le coût moyen des chirurgies a bondi de 20 % leur nombre a augmenté de 5,5 % École Joseph-François Peyrot, le chant du cœur des élèves en musique, donnez-nous une salle de concert qui sonne, des locaux de répétition qui résonnent, une photo où on voit Éric Levasseur, Kayla Stéphanos et Émilie Laforêt qui partagent un même rêve, que les élèves en musique disposent d'installations adéquates pour pratiquer leur art. Congrès de l'ACFAS, les activités parascolaires réduisent de 70 % les risques de décrochage scolaire. 71e Festival de Cannes, deux photos, une de Denis Villeneuve, le cinéaste qui défend les films, et une autre de Penelope Cruz dans l'œil des photographes. Près de 7 mois après l'adoption de la loi 62, la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, a dévoilé mercredi les lignes directrices visant à guider les organismes publics dans le traitement de demandes d'accommodement pour un motif religieux reçu à compter du 1er juillet prochain. Ces lignes directrices ne forment pas un cadre d'analyse unique, a-t-elle souligné à gros traits en conférence de presse mercredi après-midi. Du coup, chaque demande devra continuer d'être traitée au cas par cas. Cela dit, un accommodement sera octroyé seulement si une série de conditions prévues par la loi favorisant le respect de la neutralité religieuse sont respectées, a expliqué Mme Vallée. Parmi elles, le demandeur doit croire sincèrement qu'il est obligé de se conformer à cette conviction ou cette pratique dans le cadre de sa foi. L'accommodement demandé ne doit pas entrer en collision avec, d'une part, le droit à l'égalité entre les femmes et les hommes et, d'autre part, le droit de toute personne d'être traitée sans discrimination. Les fonctionnaires devront aussi avoir en tête les principes de sécurité de communication et d'identification lorsqu'ils analyseront les demandes d'accommodement faites par une personne tenant à garder le visage couvert lorsqu'elle reçoit un service public en raison de ses convictions religieuses, a rappelé la ministre de la Justice. Gérard Bouchard et Charles Taylor, qui ont co-présidé la commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles il y a 10 ans, ont mis la main à la pâte, a mentionné Mme Vallée au détour d'une réponse. Les lignes directrices n'ajoutent rien à la loi 62, déplore la députée péquiste Agnès Maltais. S'en laisse encore beaucoup sur les épaules des employés, a-t-elle dit. Stéphanie Vallée ouvre la porte à un accommodement religieux pour le niqab et la burqa si la croyance est sincère. Et elle ajoute encore plus de confusion à sa loi 62. C'était un fouillis, c'est maintenant un foutoir, a poursuivi la députée caquiste Nathalie Roy mercredi après-midi. Elle promet de commenter plus longuement le dossier à l'Assemblée nationale jeudi, donc aujourd'hui. La ministre Stéphanie Vallée tâchera de démêler les incompréhensions des partis politiques d'opposition en commission parlementaire d'ici la fin de la session parlementaire prévue le 15 juin prochain. La gestionnaire et spécialiste du commerce électronique, Michèle Blanc, fait le saut en politique avec le Parti québécois. Elle souhaite briguer l'investiture dans la circonscription de Bertrand dans les Laurentides ou de Mercier en plein cœur de Montréal. « Pour moi, c'est une extraordinaire nouvelle. C'est une femme qui a une énergie folle », s'est réjoui le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, mercredi. Il a qualifié Michèle Blanc de femme convaincante qui a une connaissance du milieu numérique. C'est d'ailleurs la stratégie numérique du gouvernement libéral qui équivaut, selon elle, à des millions garrochés à gauche et à droite sans cohérence qui l'a poussée à faire le saut en politique, selon ce qu'elle a écrit sur son blog. Avec Flipkart, Walmart débarque en force dans le commerce électronique. Le géant américain de la distribution Walmart a annoncé mercredi sa prise de contrôle de 77 % du site de vente en ligne indien Flipkart pour 16 milliards de dollars, plus grosse acquisition mondiale du secteur du commerce électronique d'après les analystes. Cette opération accentue la féroce compétition pour le prometteur commerce électronique en Inde, dont le géant Amazon a fait l'une de ses priorités mondiales. Le marché du e-commerce ou e-commerce pesait l'année dernière 21 milliards de dollars dans ce pays de 1,3 milliard de personnes. L'accord Walmart Flipkart va créer un désavantage pour les vendeurs au détail. Seuls les capitaux risqueurs, les investisseurs et les promoteurs en bénéficieront. Et pas le pays, a prévenu la Confederation of All India Traders. Le groupe médiatique Torstar, qui comprend le quotidien Toronto Star et des dizaines d'autres journaux, tentera un nouveau modèle d'abonnement qui fera davantage appel aux données analytiques pour relier les annonceurs aux consommateurs. Le chef de la direction de Torstar, John Boynton, a annoncé ce plan lors de l'Assemblée annuelle des actionnaires de l'entreprise mercredi, mais n'a pas voulu donner de détails sur l'échéancier du projet. Torstar a embauché de nouvelles personnes détenant une expertise en gestion de données et offre de la formation à d'autres employés afin qu'ils puissent tirer profit du potentiel du nouveau modèle d'abonnement en ciblant les consommateurs avec des publicités en particulier. « Nous devrons vraiment être très bons en données avant de nous lancer dans ces abonnements », a expliqué M. Bonton. « La CIA ne reprendra pas le programme d'interrogatoire poussé introduit après les attentats du 11 septembre et assimilé à de la torture, même sur ordre du président, assuré mercredi au Congrès Gina Haspel, choisie par Donald Trump pour diriger l'Agence américaine de renseignement. Âgée de 61 ans, celle qui a passé 33 ans au sein de l'agence basée à Langley, en Virginie, et deviendrait la première femme à la diriger, a créé la polémique pour avoir dirigé pendant au moins une partie de l'année 2002 une prison secrète de la CIA en Thaïlande où les détenus suspectés d'appartenir à Al-Qaïda étaient fréquemment torturés. Les autorités congolaises et leurs partenaires organisaient mercredi la réponse face à la nouvelle épidémie de fièvre hémorragique Ebola qui s'est déclarée dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo et qui a déjà fait 17 morts. L'Organisation mondiale de la santé a débloqué 1 million de dollars pour stopper la propagation d'Ebola dans les provinces et les pays voisins, a indiqué un représentant de l'Agence humanitaire des Nations unies. Il s'agit de la 9e épidémie d'Ebola sur le territoire de l'actuelle RDC. La dernière épidémie remonte à 2017. Et la Corée du Nord a libéré 3 Américains, a annoncé mercredi le président des États-Unis, Donald Trump, saluant le geste de bonne volonté de la part du leader nord-coréen Kim Jong-un qu'il doit rencontrer dans les semaines à venir. J'espère que vous passez un bon jeudi 10 mai 2018. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Vous écoutez l'émission Le quotidien des quotidiens à l'antenne de Canal M de Vues et Voix et je vous retrouve après la pause et la chanson avec, entre autres, la revue de presse du Journal de Montréal. Restez avec nous.
Mettons, là, je m'en comptais. 1, 2, 3, 1. Tu sais, lui, il part, là. À partir de son premier coup, moi, je compte 6. À 6, il brille.
Ouais, puis toi, t'as regardé si tu pars.
Ben, moi, je pars quand t'arrêtes.
Tour à 3, ça, là.
Ouais, c'est ça, mais il fait 2. 2 fois 3, 6. 2 fois 3, 6, 6, 8.
Oh, ben, c'est parti, monsieur.
Bon, OK, m'a donné le compte, Michel, là.
Ouais, puis quand est-ce que je pars?
Toi? Ouais, ouais, non, ben, 1, 2, 3. C'est dans Paris, y a-tu une brune reste à savoir si je l'aurai.
C'est dans Paris, y a-tu une brune reste à savoir si je l'aurai.
Je l'aurai, quoi qu'il m'en coûte, le rossignol puisse à voler. La pointe du jour arrive, arrive, les gens du jour arriveront.
La pointe du jour arrive, arrive, les gens du jour arriveront.
Oui, je l'aurai, quoi qu'il m'en coûte, le rossignol puisse à voler.
Oui, je l'aurai, quoi qu'il m'en coûte, le rossignol puisse à voler.
Le rossignol puisse à voler vers le château, il s'en alla. La pointe du jour arrive, arrive, les gens du jour arriveront.
La pointe du jour arrive, arrive, les gens du jour arriveront.
Le rossignol a pris son vol vers le château, il s'en alla.
Le rossignol a pris son vol vers le château, il s'en alla.
Il arriva, la porte barrée, par la fenêtre il y entra. La pointe du jour arrive, arrive, les gens du jour arriveront.
La pointe du jour arrive, arrive, les gens du jour arriveront.
Il arriva, la porte barrée, par la fenêtre il y entra.
Il arriva, la porte barrée, par la fenêtre il y entra.
Salut à l'un, salut à l'autre, salut à tous, me revoilà. La pointe du jour arrive, arrive, les gens du jour arriveront.
La pointe du jour arrive, arrive, les gens du jour arriveront.
Salut à l'un, salut à l'autre, salut à tous, me revoilà.
Salut à l'un, salut à l'autre, salut à tous, me revoilà.
Si il était venu lui-même, il n'aurait point regretté ses pas. La pointe du jour arrive, arrive, les gens du jour arriveront.
La pointe du jour arrive, arrive, les gens du jour arriveront.
S'il était venu lui-même, il n'aurait point regretté ses pas.
S'il était venu lui-même, il n'aurait point regretté ses pas. Il aurait dîné avec moi, tandis que là, dînera pas. Il aurait souper avec moi, tandis que là, soupera pas. Il aurait dansé avec moi, tandis que là, dansera pas.
La pointe du jour arrive, arrive, les gens du jour arriveront.
La pointe du jour arrive, arrive, les gens du jour arriveront.
Il aurait dansé avec moi, tandis que là, dansera pas.
Il aurait dansé avec moi, tandis que là, dansera pas.
Il se serait couché avec moi, tandis que là, se couchera pas. La pointe du jour arrive, arrive, les gens du jour arriveront.
La pointe du jour arrive, arrive, les gens du jour arriveront.
Il se serait couché avec moi, tandis que là, se couchera pas.
Il se serait couché avec moi, tandis que là, se couchera pas.
Il se serait marié avec moi, tandis que là, se mariera pas. La pointe du jour arrive, arrive, les gens du jour arriveront.
La pointe du jour arrive, arrive, les gens du jour arriveront.
Il se serait marié avec moi, tandis que là, se mariera pas.
Il se serait marié avec moi, tandis que là, se mariera pas.
Mon bel ami, tu m'as menti, oh, t'es pas mon meilleur ami. La pointe du jour arrive, arrive, les gens du jour arriveront.
La pointe du jour arrive, arrive, les gens du jour arriveront.
La pointe du jour arrive, arrive, les gens du jour arriveront.
La pointe du jour arrive, arrive, les gens du jour arriveront.
Oui, les charbonniers de l'enfer et la pointe du jour.
À la une du Journal de Montréal, de plus en plus d'arrestations à Montréal, alerte aux cyberpédophiles. Malgré les critiques de la vérificatrice générale, Québec pourrait encore forcer Hydro à investir dans l'éolien. Surcharge de travail des profs en congé à leurs frais. Des questions pour la presse, la chronique de Richard Martineau, l'illusion de la tablette, la chronique de Mathieu Bock-Côté. L'éolien a coûté 2,5 milliards de dollars en 8 ans au Québec. L'aventure éolienne et les autres énergies alternatives au Québec ont coûté 2,5 milliards aux contribuables en 8 ans, révèle la vérificatrice générale dans un rapport choc. L'approvisionnement par de l'électricité post-patrimoniale, qui découle principalement de décrets gouvernementaux, a eu un effet à la hausse estimée à 2,5 milliards de dollars sur les coûts d'approvisionnement d'Hydro-Québec entre 2009 et 2016, note Guylaine Leclerc, dans son rapport printanier. En 2016 seulement, la perte est évaluée à 730 millions de dollars. Évidemment, ce n'est pas Hydro-Québec qui a assumé ces frais. Le montant a été récupéré dans les tarifs d'électricité payés par les Québécois. Comment expliquer ce trou qui se creuse d'année en année? De 2003 à 2014, les gouvernements Charest et Marois ont adopté successivement plusieurs décrets visant l'approvisionnement d'Hydro-Québec au moyen de blocs d'énergie comme l'éolien, la biomasse, les mini-centrales ou la centrale de TransCanada Énergie. Ces contrats sont prioritaires, c'est-à-dire qu'Hydro-Québec doit acheter cette énergie avant d'utiliser celle que produisent les grands barrages de la baie James et de la Côte-Nord, beaucoup moins coûteuses. Il en résulte que le distributeur s'approvisionne prioritairement à un coût unitaire moyen plus élevé de 8,9 cents par kilowatt pour l'électricité post-patrimoniale par rapport à 2,67 cents de kilowattheure pour l'électricité patrimoniale, souligne Mme Leclerc. Une bonne partie de cette énergie provient des parcs éoliens. Le ministre des Ressources naturelles, Pierre Moreau, a répliqué que la décision d'acheter de l'énergie éolienne pour développer l'économie de certaines régions était le choix de la population. C'est un choix que les Québécois ont fait, a-t-il indiqué à la presse parlementaire. « Ex-administratrice d'une banque controversée chez Financière Power, Susan MacArthur a aussi été présidente du conseil de direction de Revenu Canada. Une administratrice qui devrait faire son entrée dès aujourd'hui au conseil de la Financière Power, filiale de Power Corporation, a travaillé pour la banque suisse UBS qui a dû payer de fortes amendes au gouvernement américain. Peu de temps après avoir quitté l'institution financière en 2009, elle a été nommée au conseil de direction de Revenu Canada. L'information selon laquelle Mme MacArthur a été administratrice d'UBS était complètement absente du communiqué de l'Agence du revenu du Canada annonçant sa nomination. Contrairement aux Américains, le Canada n'a jamais accusé aucun client d'UBS d'évasion fiscale. Les montants récupérés chez UBS, en grande partie par une procédure de divulgation volontaire, ont aussi été beaucoup plus modestes proportionnellement qu'aux États-Unis. Alors que le gouvernement américain a pu récupérer 5 milliards de dollars US cachés, l'ARC, ou ARC, c'est-à-dire l'Agence du revenu du Canada, disait en septembre 2017 avoir pu identifier 279 millions en revenus non déclarés liés à la banque UBS. Selon la professeure de fiscalité et ex-candidate à l'investiture libérale fédérale dans Saint-Laurent, Marwa Rizki, il est aberrant que l'ARC, ou l'ARC, ait nommé en 2009 une ex-administratrice d'une banque alors mêlée à un scandale. Un conseil d'administration a des obligations de fiduciaire. Tu es censé savoir ce qui se passe dans ta cour. Si tu ne le sais pas, tu n'es pas une bonne administratrice, a-t-elle dit. Près de deux mois après la disparition d'Ariel Jeffrey Kouakou, sa famille, en collaboration avec l'arrondissement Aontic-Cartierville, a développé deux nouveaux panneaux d'affichage sur le boulevard Henri Bourassa hier. Visiblement émus, Akouena Nouella Bibier et Kouadio Frédéric Kouakou ne baissent pas les bras pour relancer les recherches afin de localiser le garçon de 9 ans. Une vigile sera organisée samedi. Une photo presque appétissante en page 10 du Journal de Montréal, une citerne transportant 12 tonnes de chocolat chaud liquide s'est renversée hier sur une autoroute en Pologne, transformant la chaussée en doux fleuve marron, a annoncé la police locale. Le camion appartenant à un fabricant de friandises a heurté, pour des raisons encore inconnues, les barrières de l'autoroute. Avant que l'autoroute soit complètement fermée, le chocolat a été répandu sur la chaussée par les roues des voitures, laissant des traces sur plusieurs kilomètres. Pour mieux détecter les risques d'homicide, une nouvelle formation offerte à des millions d'intervenants pourrait sauver des Rosalie Gagnon. Ruptures difficiles, idées suicidaires, dépression, violences conjugales et problèmes de toxicomanie, les cas pouvant mener à des homicides familiaux peuvent être fréquents. Il y en a plus qu'on pense des situations où l'on devrait intervenir, souligne Valérie Tremblay, agente de planification, de programmation et de recherche au Centre de recherche appliquée en intervention psychosociale, le CREP, l'organisme ayant obtenu le mandat du ministère de la Santé. On devrait développer une formation pour vraiment estimer, détecter et gérer le risque d'homicide, a expliqué au journal l'experte lors d'une présentation au congrès de l'ACFAS hier. À la suite du cas Guy Turcotte, un rapport d'un comité d'experts sur les homicides a évalué les besoins pour éviter de nouveaux drames. En 2015, le CREP a mis sur pied un projet pilote. Puis, après quelques ajustements, ils ont récemment commencé à donner la formation à 214 responsables régionaux mandatés afin de transmettre l'enseignement à des centaines d'intervenants psychosociaux et des ressources d'hébergement en dépendance. La formation est comparable à celle des sentinelles du Centre de prévention du suicide. Les responsables espèrent que la formation d'une journée et demie puisse prendre de l'expansion. Par exemple, la Direction de la protection de la jeunesse pourrait notamment avoir recours à cette formation. L'histoire de la petite Rosalie Gagnon, qui a marqué tout le Québec à la fin du mois d'avril, est un exemple où la formation aurait pu être utile. Ma tante veut caser ses célibataires. Opération Charme pour les inciter à prendre racine. Des organismes de ma tante dans le Bas-Saint-Laurent organisent une soirée de célibataires pour « caser » entre guillemets leurs nombreux travailleurs nouvellement arrivés dans la région, dans le but qu'ils s'y installent définitivement. Le soir du 2 juin, à la Marina de Matane, on y tiendra donc la soirée avec une activité de type speed dating pour briser la glace avec un service de bar, de la musique, une piste de danse et un feu à l'extérieur. Le nouveau parti des sept démissionnaires du Bloc québécois se nommera finalement Québec debout. Ils ne sont toutefois pas prêts à se définir comme un parti indépendantiste. Les Québécois se sont tenus debout contre vents et marées dans toutes sortes de situations. Québec debout, ça identifie très bien la nation québécoise. Ça identifie ce qu'on a envie de faire, a indiqué le porte-parole du groupe Réal Fortin. Après avoir claqué la porte du parti de Martine Ouellette à la fin février, le groupe des sept siégeait sous le nom de Groupe parlementaire québécois. Ils avaient annoncé en avril qu'ils lanceraient un nouveau parti sans toutefois avoir de nom ou de chef. L'orientation indépendantiste du parti n'est toujours pas non plus clairement définie. Et pour terminer, les résidents et commerçants du quartier chinois sont furieux contre la ville de Montréal qui a décidé d'installer une toilette publique auto-nettoyante à l'intérieur de la place Sun Yat-sen. La métropole a fait l'acquisition de 12 toilettes extérieures au prix de 3 millions l'année dernière. Une d'entre elles est en construction à la place Sun Yat-sen sans même que la ville ait consulté les résidents et commerçants locaux. Personne dans Chinatown ne veut voir ces toilettes-là, a affirmé Fonta Chian, une commerçante.
Au-dessus des vieux volcans, glissent des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage et jamais ne
jamais ne revient.
Voilà, on vient d'entendre Voyage, Voyage, repris par Yann Perrot et La Bronze.
Alors, on commence cette tournée des journaux régionaux avec un pharmacien au bout du clavier. C'est une exclusivité dans Le Soleil d'aujourd'hui, article d'Anne Drolet. Si vous avez l'habitude de chercher sur Internet les réponses à vos petits bobos, vous pourrez dès aujourd'hui poser vos questions en ligne à un pharmacien sur le nouveau site de Familiprix. Avant de se déplacer à la pharmacie ou chez le médecin, le réflexe de la plupart des gens est d'essayer de trouver une réponse à leurs maux sur Internet. Mais auprès des sources qui ne sont pas toujours fiables, notamment sur des forums, fait valoir Karine Lesage, chef marketing numérique chez Familiprix. Il y a un besoin en ligne non répondu pour tout ce qui a trait aux problèmes de santé avec des sites qui nous disent qu'on a le cancer aussitôt qu'on a un rhume, illustre-t-elle. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre bannière qui offre ce service. Toutefois, la plateforme questionne pour un... La plateforme qui s'appelle questionspourunpharmacien.com, fondée par le pharmacien Alexandre Chagnon de l'hôpital de Green Bay, regroupe des pharmaciens de différentes bannières qui répondent aux questions des internautes. La demande venait un peu de nos pharmaciens propriétaires qui participaient sur cette plateforme-là, mais qui auraient aimé le faire pour les clients patients de Familiprix, explique Mme Lesage. La pharmacienne propriétaire Geneviève Duperron a collaboré à questionspourunpharmacien.com avant de le faire maintenant sur le site de Familiprix. Elle affirme qu'il y a une demande croissante pour ce genre de service. Déjà, elle reçoit des questions sur sa page Facebook. Certaines clientèles ne veulent pas attendre en succursale ou au bout du fil. D'autres préfèrent l'anonymat du web. Elle donne par exemple le cas des antidépresseurs. On sait pertinemment qu'il y a plein de gens qui ne se rendent pas à la pharmacie avec leurs prescriptions, dit-elle. Souvent, c'est parce qu'ils ont peur, qu'ils ont lu des mauvais commentaires sur Internet, affirme la pharmacienne. Peut-être qu'on va pouvoir aider des gens qui ne seraient pas venus nous voir autrement. Elle ajoute aussi que ça va couvrir des heures beaucoup plus larges. Les questions sont posées de façon anonyme, mais les réponses seront accessibles à tous. Les pharmaciens de partout au Québec répondront aux interrogations selon leur disponibilité. Dans le quotidien, Anne-Claude Brisson, un projet de plusieurs millions à Alma. Le visage du centre-ville d'Alma est appelé à changer radicalement alors que des projets de plusieurs millions de dollars se dessinent. La transaction, qui sera officialisée au cours des prochains jours, implique des locaux de la Plaza 3 et un terrain de la rue Sacré-Cœur. L'espace anciennement occupé par la Banque nationale, qui donne sur la rue Sacré-Cœur, Chaussures Pop et Le Vapoteur, permettra un agrandissement majeur de la clinique médico-esthétique d'Alma et une amélioration de son offre de services. Les locaux sont évalués à environ 1 million de dollars. Le projet d'expansion de la clinique, ouverte depuis 2016, est encore au stade de l'élaboration des plans. Les travaux devraient débuter au cours des prochains mois. L'entreprise, qui compte déjà 2 médecins et 2 gynécologues, devrait accueillir d'autres médecins pratiquants, entre autres au privé. Les entrepreneurs Chantal Tremblay et Linda Gobet, qui sont également derrière l'agence de placement en soins infirmiers Action Santé LC, comptent aussi offrir un service de bureau locatif pour la clientèle d'affaires. Questionnés quant au sort réservé à ceux qui habitent la vingtaine de logements de la bâtisse, le duo Murphy confirme que la location d'appartements est appelée à disparaître. « Nous ne voulons pas les alarmer, mais notre but n'est pas de conserver les locataires », précise Chantal Tremblay. Le début des travaux marquera la fin de cette offre. Les rumeurs de vente des dernières semaines ont déjà amené plusieurs personnes à quitter leur appartement. L'avenir est différent pour les organismes parents branchés et l'Association des personnes handicapées visuelles. Ceux-ci n'auront pas à quitter la portion de la Plaza 3 qui a été vendue. Une résidente de l'un des 24 appartements a confirmé au quotidien n'avoir reçu aucun avis d'éviction. La dame, qui s'attendait plutôt à des rénovations de l'édifice, affirmait qu'il s'agissait de simples rumeurs. De son côté, la conseillère en communication à la ville d'Alma, Audrey-Claude Gaudreau, confirme qu'aucune demande de permis pour transférer la vocation résidentielle en commercial n'a été formulée relativement à cette transaction. En plus des projets d'agrandissement et d'espaces locatifs, la mère et la fille sont en attente d'une confirmation quant à la venue d'une entreprise majeure au premier étage de leur acquisition. Cette transaction d'envergure au centre-ville inclut également un terrain situé sur la rue Sacré-Cœur, presque vis-à-vis les nouveaux locaux. Dans la Tribune, un article de Mélanie Noël, le Collège du Sacré-Cœur deviendra une école mixte à la rentrée 2019. Et bien que les portes de l'école seront désormais ouvertes aux garçons, les classes demeureront unisexes, a appris la Tribune. La direction a pris cette décision afin d'élargir le bassin d'élèves potentiels dans un contexte où les établissements scolaires privés comme publics se livrent une forte concurrence. Un sondage auprès des parents des élèves effectué au cours des derniers mois aurait démontré qu'être en présence de garçons à l'école était une des raisons principales pour lesquelles les élèves du Collège du Sacré-Cœur quittaient l'établissement une fois qu'elles avaient atteint leur secondaire 3 ou 4. Par contre, le Collège du Sacré-Cœur tient à conserver les classes unisexes puisque la direction et les enseignants croient que les garçons et les filles ont une façon différente de faire leur apprentissage. Le changement de clientèle potentielle sera effectif pour l'année scolaire 2019 puis 2020, puisque la période d'inscription pour l'année 2018-2019 est déjà terminée. Tous les membres de la coopérative de solidarité du Collège du Sacré-Cœur avaient été convoqués mercredi soir pour une assemblée générale spéciale des coopérants au gymnase de l'établissement. L'assemblée avait pour but de parler de l'avenir du collège. La présence des coopérants, c'est-à-dire les parents des élèves, était fortement suggérée. Lors de l'Assemblée, un vote a aussi été pris sur l'engagement des parents concernant le retour de leur enfant en septembre prochain, sur une possibilité de 195 retours, 125 ont confirmé, 10 ont dit que leur enfant ne reviendrait pas et on comptait une soixantaine d'absents. Dans le Nouvelliste, Mathieu Lamotte, la Société québécoise du cannabis implantera vraisemblablement son point de vente trifluvien dans un local vacant de la Plaza Trois-Rivières, un centre commercial situé à l'intersection des boulevards des Forges et des Récollets. Même si aucun des intervenants impliqués dans le dossier ne veut confirmer que la nouvelle société d'État a arrêté son choix sur cet emplacement, l'écriteau qui indiquait que le local était à louer a récemment été remplacé par un nouveau sur lequel on peut lire qu'il est maintenant loué et qu'il y aura une ouverture bientôt. Par ailleurs, ce local de plus de 2000 pieds carrés respecte les limites imposées par la Ville dans un règlement adopté par le conseil municipal il y a quelques semaines. En vertu de celui-ci, la place d'affaires de la future Société québécoise du cannabis, SQDC, ne peut s'implanter que sur les axes routiers considérés comme principaux, dont la portion du boulevard des Forges située entre le boulevard Rigaud, la rue des Cyprès et le boulevard des Récollets, où l'on retrouve le dit local. Il y a des pourparlers, mais ce n'est pas finalisé. C'est avancé, mais il n'y a rien de signé encore, indique le président fondateur de la société immobilière Duguay, Philippe Duguay, qui est propriétaire de ce centre commercial. Du côté de la Société des alcools du Québec, qui chapeautera la SQDC, on est également avare de commentaires. Vous écoutez le quotidien des quotidiens en ce beau jeudi 10 mai, jeudi beau parce que, oui, c'est beau en ce moment, mais ça va se gâter un peu, mais on annonce du beau soleil pendant plusieurs jours. Restez avec nous pour une reprise de Comme d'habitude.
C'était le trio Rachida, Khaled et Faudel qui nous reprenaient comme d'habitude.
l'actualité culturelle, prix des libraires. Fanny Mallette et Catherine Trudeau animaient hier soir à l'Olympia le premier gala de l'Association des libraires du Québec, une soirée sous le signe de la littérature avec en prime une prestation de Tire le Coyote, grand amoureux des livres. C'est Nathalie Collard qui signe l'article dans la presse d'aujourd'hui, catégorie roman. La bête creuse de Christophe Bernard l'emporte. Alors, entrevue. Quelle a été votre réaction en apprenant que vous remportiez ce prix? De la reconnaissance avant tout, de la gratitude et de l'humilité aussi. Il n'y a pas vraiment d'autre façon de prendre ça, je pense. J'étais vraiment content et cela me motive à travailler et à continuer. J'ai travaillé pendant 10 ans sur ce premier roman, alors ça clôt ce long processus de belle façon. Un prix attribué par des libraires, qu'est-ce que cela signifie pour vous? J'ai l'impression de rejoindre une belle famille. Les libraires restent aux barricades du marché du livre et c'est vraiment formidable d'être backé par eux. Moi, je suis une bébite de librairie. J'aime bouquiner et quand je voyage, c'est la première chose que je repère dans une nouvelle ville. En fait, je fais du tourisme livresque. Voir mon livre protégé par ces professionnels, ça fait chaud au cœur. Il vous a fallu 10 ans pour écrire ce premier roman. Devrons-nous attendre aussi longtemps pour le second? Je suis déjà lancée dans un nouveau projet, j'ai commencé un deuxième livre alors que j'écrivais le premier. Il y a eu un chevauchement, donc j'ai déjà gagné 1 an. Entre parenthèses, rire. Le fait de recommencer à écrire avec pas mal d'expérience acquise aide aussi. La bête creuse a été l'école de l'écriture pour moi. Là, je me sens un peu plus en possession de mes moyens. Et en 10 ans, j'ai eu le temps de remplir des carnets de notes et de faire mousser mes idées. Le roman « La bête creuse » de Christophe Bernard est publié aux éditions Le Cartanier. Les autres lauréats. Julie Rochelot a remporté le prix des libraires dans la catégorie BD Québec pour « Betty Boob », publié chez Casterman, un album qui raconte avec humour une histoire de cancer du sein. Scénarisé par Véronique Cazot, « Betty Boob » a également remporté le prix BD FNAC 2018 en janvier dernier. Dans la catégorie BD hors Québec, le lauréat est Bastien Vivez pour son très beau roman graphique « Une sœur », publié aussi chez Casterman, qu'on a qualifié de cinématographique. Une très belle histoire sur les premières amours. C'est Jonathan Durand-Folco, professeur adjoint à l'École d'innovation sociale de l'Université Saint-Paul à Ottawa, qui remporte le prix dans la catégorie « Essai » pour « À nous la ville, traité de municipalisme », publié chez Éco-Société, un plaidoyer pour le pouvoir local. René Lapierre emporte le prix des libraires dans la catégorie poésie pour son très beau recueil « Les adieux » publié aux Herbes Rouges, son 11e. Le thème « L'amour ». Aimer, c'est effrayant. Aimer est effrayant, mais c'est notre seule chance, notre dernière, je veux dire. Dans la catégorie roman hors Québec, le gagnant est l'auteur suédois Jonas Gardell pour « N'essuie jamais de larmes sans gants » publié chez Gaïa, dont le comité de sélection a souligné le caractère important, bouleversant, essentiel. Un film de Desjardins sur Frédéric Chopin. Après avoir lancé plusieurs documentaires engagés au cours des années, Richard Desjardins change de cible pour son prochain projet de film. Le musicien travaille sur un documentaire à propos d'un artiste qui l'a toujours fasciné, Frédéric Chopin. Au-delà de son œuvre musicale, Richard Desjardins s'est bâti une très belle carrière de documentariste avec L'erreur boréale, Le peuple invisible et True Story ces dernières années. Rencontré par le Journal de Montréal à l'occasion de la réédition de l'album Boomtown Café du groupe Abitibi, le musicien a mentionné qu'il se penchait sur la vie du mystérieux compositeur polonais. « Il m'a toujours fasciné, dit-il. Tout le long de ma vie, j'ai lu à son sujet sans trop en apprendre vraiment sur lui. Je me demandais qui était ce gars-là. C'était un gars chétif de 110 livres qui avait ma grandeur. Comment une puissance pouvait sortir de ça? » Cet automne, Richard Desjardins prévoit s'envoler à Varsovie, en Pologne, pour retourner sur les traces de Chopin. « J'ai toujours rêvé d'y aller », dit-il. Il tournera son documentaire qui n'a pas de date de sortie avec les productions du Rapide Blanc. Après avoir sorti des documentaires aux propos revendicateurs, Richard Desjardins changera nettement de créneau cette fois-ci. Ce n'est pas du tout la même affaire, reconnaît-il. Mais beaucoup de musiciens s'intéressent à Chopin. J'ai déjà parlé de Chopin avec Oliver Jones. Il me disait que partout où il allait dans le monde, il avait tout le temps les valses de Chopin dans ses valises. Avec ce film, il ne faudrait toutefois pas penser que Richard Desjardins tourne le dos à ses projets environnementaux. Je suis encore avec Action Boréale, dit-il. On est dedans par-dessus la tête, mais pas sous forme de documentaire. On travaille à créer des aires protégées pour garder un peu de nature. Je rêverais de faire un documentaire qui expliquerait pourquoi j'ai fait l'erreur boréale. Ce serait comme un film de pure beauté sur la forêt boréale. L'humour sera plus présent que jamais cet été et au début de l'automne dans le Grand Montréal. Deux événements ont annoncé hier une nouvelle programmation comprenant des humoristes. D'abord, l'événement Mile XN, qui en sera à sa deuxième année, consacrera une journée complète à l'humour lors de son deuxième week-end le 8 septembre. Appelée Mile XN Rigole, la journée comique mettra en vedette pas moins de 30 humoristes sur diverses scènes, dont Mehdi Boussaïdan, Julien Lacroix, Rosalie Vaillancourt, Adib Al-Kaïdé, Virginie Fortin, Guillaume Wagner, Corinne Côté, Stéphane Fallu et Sexe illégal. Depuis un bout, on ne s'amuse pas tant que ça dans le monde de l'humour à Montréal, a dit Claude Larrivé, l'un des producteurs du Mile XN. On a décidé d'arriver avec un vent de légèreté. On veut mettre en valeur la nouvelle génération de stars en humour. On veut faire une super bamboula, une super fiesta. On pense que ça va être le Woodstock de la nouvelle génération en humour. Qu'un jour, on se rappellera que tous ces talents-là étaient la même journée dans un seul lieu à Montréal. Alors que son premier week-end de festivité en sera un musical, comme l'an dernier, avec des spectacles notamment de Broken Social Scene, The Bar Brothers et Tire le Coyote, le Mile XN réaménagera l'espace sous le viaduc Van Horn et le deuxième week-end pour son volet humour. On va avoir des petites scènes avec des chaises, dit Claude Larrivé. On va recréer des mini-clubs ou des mini-théâtres à l'extérieur. Un nouveau festival d'humour a aussi été lancé hier à Laval. Appelé Laval en rire, Laval laugh, l'événement se déroulera du 20 au 30 septembre et proposera des spectacles en français et en anglais. Parmi les humoristes confirmés, il y aura Mario Jean, Olivier Martineau, Eddie King, Neve et Mélanie Couture. À 71 ans, Sylvester Stallone va ressortir son couteau de chasse pour une cinquième mission de Rambo, l'ancien combattant de la guerre du Vietnam. L'acteur américain a mis en ligne mardi une illustration sur son compte Instagram où le vétéran apparaît genou au sol, son fameux couteau à la main. « Quelque chose de terrible se prépare », écrit Sly sous la photo avec la mention « Rambo 5, automne 2019 ». Les producteurs en sont à vendre les droits du long-métrage à l'international au marché du film qui se tient en marge du 71e Festival de Cannes. Le tournage devrait commencer en septembre et passer par Londres, la Bulgarie et les îles Canaries, selon le Hollywood Reporter. Le film verra John Rambo sortir de sa retraite après l'enlèvement d'une jeune fille par un cartel mexicain spécialisé dans le trafic sexuel. Et finalement, France Baudouin fait un retour aux grandes entrevues. « Pour emporter » sera le titre de sa nouvelle émission d'une heure par semaine qui sera diffusée sur ICI-RTV dès le 17 août à 20h. Pour l'instant, 20 rencontres sont prévues à la grille. Aucun nom d'invité n'a été dévoilé. Le fil conducteur de cette émission, ce sont les mots. Dans la vie, on est la somme des mots qu'on a entendus, lus, dits ou même tus par moment, explique France Baudouin. Le public pourra assister aux enregistrements et possiblement repartir avec des œuvres dispersées dans le décor et dont il aura été question durant l'émission, que ce soit des livres, des partitions ou des textes de théâtre. D'où le titre de l'émission, réalisé par Guillaume Saint-Arnaud. Antoine Graton accompagnera l'entrevue au piano chaque semaine, en plus de signer le thème de l'émission.
Ça s'appelle la nouvelle scène. Alors, la différence qu'il y a entre la nouvelle scène et la vieille scène, c'est le parquet. C'est tout. C'est tout. Nouvelle scène, nouvelle scène. La nouvelle scène se rêve, la nouvelle scène se tient debout, à tout bout de champ. Nouvelle scène. Pour rentrer dans l'histoire d'une chanson, il faut un verre, à boire et l'imagination. À leur place, vous feriez quoi comme chanson? À leur place. Mais eux, sont-ils à leur place? Sont-ils de ceux qui savent que tout ça n'a qu'un temps?
Nouvelle scène. La nouvelle scène vient d'un nouveau pays. Pas celui de Lori, ni celui de Pani, non. La nouvelle scène, c'est la nouvelle scène. Le genre Agnès Bill, parlez-moi de Kali, de Fersen, de Diams et de Berry, de MC, d'Anis ou d'Anaïs. Et laissez-moi faire un slam. Un slam pour mes vieux potes d'Ayam.
Nouvelle scène, moi je dis que ça vaut la peine. Mais qu'est-ce qui restera dans 30 ans de tout ça? Brel, Brassens ou Ferré, les nouveaux sont-ils nés? Où reste-t-il à naître? Les nouveaux sont-ils nés? Où reste-t-il à naître?
Nouvelle scène, un peu comme Olivia, la femme au chocolat. À Bastille et autour, chez les bobos du jour, tu me dis.
Salut toi, ça va?
Eh oui, ça va. Et dis-moi, qu'est-ce que tu aimes toi?
Moi, j'aime les chansons de M.
Alors puisque c'est comme ça, moi, je te de l'herbe.
À la faveur de l'automne, y a Tété qui résonne. Amélie les crayons se barre avec Dutron. Thomas, je veux dire, Palper, c'est comme de l'herbe. Palper, ou bien Chédid, Palper, ou bien Noël, Palper. Ouais, Palper Noël, je sais, y en a plein d'autres, des dizaines, des centaines. Le problème quand on slame, c'est que ceux qu'on ne cite pas se sont oubliés et te font un procès.
Nouvelle scène, moi je dis que ça vaut la peine. Mais qu'est-ce qui restera dans 30 ans de tout ça? Brel, Brassens ou Ferré, les nouveaux sont-ils nés? Où reste-t-il à naître? Les nouveaux sont-ils nés? Où reste-t-il à naître?
Le problème quand on slame, c'est que ceux qu'on ne cite pas se sentent oubliés et te font un procès. Mais après tout, peu importe, on s'en fout.
On s'en fout.
On n'y va pas.
On n'y va pas.
On n'a qu'à se cacher sous les draps, on commandera des pizzas.
Toi, la télé et moi.
Ouais, toi, la télé et moi. Et Benabar, mais qui voilà?
Mais c'est Chéral la petite puce et son nouveau voisin, Renan Luce.
Et puis Pauline Croze, cette pétale de rose, Daphné et Simon, Émilie IE de son prénom.
L'Y est pour l'oiseau, Émilie l'oiseau.
Et San Severino, as-tu vu Clarica?
Camille n'est pas là, Jam s'est arrivé.
Avec Mickey 3D,
Miossec et les têtes raides.
Et Arnaud et Bogart.
Et Aldebert et Adrienne. Pauline!
Tout le monde fait la fête dans la rue, la rue est à nous, la rue qui est à nous. Les ogres de Barbac et Dominique, ah, et Arthur. H et Raphaël
et la tête
Alouette
et Bruel.
Quoi Bruel? Et il fait du cinéma.
Nouvelle scène, moi je dis que ça vaut la peine. Mais qu'est-ce qui restera dans 30 ans de tout ça? Brel, Brassens ou Ferré, les nouveaux sont-ils nés? Où reste-t-il à naître? Les nouveaux sont-ils nés? Où reste-t-il à naître? Nouvelle scène, moi je dis que ça vaut la peine. Mais qu'est-ce qui restera dans 30 ans de tout ça? Brel, Brassens ou Ferré, les nouveaux sont-ils nés? Où reste-t-il à naître? Les nouveaux sont-ils nés? Où reste-t-il à naître? Nouvelle scène, moi je dis que ça vaut la peine. Mais qu'est-ce qui restera dans 30 ans de tout ça? Brel, Brassens ou Ferré, les nouveaux sont-ils nés?
Chanson plus bifluoré et le slam de la nouvelle scène.
Ah. Alors, allons-y avec le Festival de Cannes, un article d'Odile Tremblay qui est là-bas, 71e édition. Denis Villeneuve en son palais. Le réalisateur et scénariste québécois mesure toute la responsabilité d'être parmi le jury de la compétition. Quand Denis Villeneuve était venu présenter Sicario en compétition à Cannes en 2015, le stress et l'angoisse n'étaient jamais bien loin. C'est à double tranchant. Une sélection ici évoque-t-il. Il y a deux portes et tu ne sais jamais laquelle tu vas prendre en sortant. Porte de l'enfer ou porte du paradis, c'est selon. Après une critique assassine, le cinéaste se retrouve sur le grill. Sinon, il flotte. En attendant, il tremble. Cette année-là, Xavier Dolan était membre du jury. Également Jake Gyllenhaal, un de ses acteurs et amis, tout comme les frères Coen avec qui il partage le même directeur photo. Sicario n'avait rien récolté in fine. C'est la règle du jeu, les films de genre se retrouvent rarement au palmarès. Encore chanceux d'être sélectionné, lance-t-il philosophe. Cette fois, après avoir accepté de participer au jury de la compétition, le cinéaste de Blade Runner 2049 a éprouvé une sensation de détente. Puis en arrivant, j'ai senti un autre stress, celui de la responsabilité. Je prends mon rôle au sérieux. On était quelques journalistes québécois au palais venus mercredi rencontrer notre compatriote et il nous avait prévenu d'entrée de jeu, ne me posez pas de questions sur les films de la course. Présent à Cannes depuis dimanche, il a pu déjà casser la glace avec ses acolytes lors d'un dîner d'accueil. Au début, c'était assez solennel, explique-t-il. Thierry Frémaux, le délégué général du festival, et Pierre Lescure, son président, nous ont expliqué les règles à respecter. On doit se taire, car la moindre blague peut être interprétée, se transformer en oui-dire, nuire au film. Lors de ce dîner, il a senti des complicités s'établir avec les autres membres du jury. C'est excitant pour moi. Tout le monde est très ouvert, mais personne n'est dans l'ego. Je ne suis pas ici pour juger, mais pour défendre des films. C'est un exercice d'intuition. Et qu'a envie de défendre Denis Villeneuve? Les cinéastes qui vont avoir l'audace de faire évoluer le langage cinématographique, même si parfois ils ne réussissent pas totalement leur coup, répond-il. J'aime la prise de risque, la poésie. Le réalisateur entend se placer devant un film avec le regard vierge. Il ne lit rien sur sa proposition, ignore s'il s'agira d'une production d'horreur ou d'une comédie. Lors de la cérémonie d'ouverture, quand ils ont présenté des extraits des films de la course, j'ai fermé les yeux. Je veux à peine savoir leur titre. Pas question non plus pour Villeneuve de lire les critiques diffusées au long des 10 jours du festival. Ne rien connaître d'un film me procure un choc que je trouve intéressant. Il aurait quand même aimé voir concourir un cinéaste québécois, mais ça ne s'est pas fait. Lorsque le jury a gravi les marches du palais à l'ouverture, les hommes et les femmes se sont mélangés. On voulait être une seule voix. Une crainte l'étreint. Je trouve que tout est vu sous la lorgnette post-Weinstein, alors qu'on va juger des films qui parlent de plusieurs réalités sur divers points de vue. Il se promet de les évaluer au mérite et sans parti pris. Le voici à Cannes en une année apparemment charnière avec défection de Netflix et de certaines productions américaines qui préfèrent lancer leurs films durant les festivals automnaux plutôt qu'au printemps. Les Américains sont très superstitieux, constate cet habitué d'Hollywood. Les derniers succès aux Oscars sont passés par Venise, alors. Cela dit, on a souvent reproché à Cannes de présenter de façon récurrente les mêmes noms. Cette année, ils n'ont pas fait ça, ce qui démontre une vitalité, un goût du risque. Ce festival comme vitrine du cinéma d'auteur est très important. Mais où s'en vont ces films d'auteur ensuite? Sur Internet. Et si les grands écrans n'allaient plus projeter que du Disney? Ne rien connaître d'un film me procure un choc que je trouve intéressant. Alors, c'est une citation que je vous ai déjà mentionnée, de Denis Villeneuve. Des inquiétudes le tenaillent. Mes films sont conçus pour le grand écran, qui est un tableau d'une immense ampleur. Pour un téléphone, tu ne réalises pas de la même manière. Or, les films se « YouTubisent », entre guillemets. Toute une réflexion reste à faire sur la présence à l'écran. À moins qu'ils aient conçu leur projet avec cette plateforme, plusieurs cinéastes dont les films sont achetés par Netflix sont déçus. Le cinéma d'auteur est dur à trouver sur cette plateforme. Pourquoi Warner n'a-t-il pas diffusé Roma de Cuaron ou Suaron? Cannes le voulait, mais son conflit avec Netflix, son acquéreur, a empêché sa présence sur la croisette. Des mises à niveau s'imposent. Denis Villeneuve vient de terminer avec Philip Roth le scénario de Dune adapté du roman de Frank Herbert, un projet sur lequel Alejandro Jodorowsky s'était cassé les dents sans le voir aboutir. Quant à David Lynch, il en avait livré une adaptation décevante. Et si c'était un projet maudit, comme le Don Quichotte de Terry Gilliam, lui demande-t-on. Je me suis tellement amusée à l'écrire, jamais je n'avais eu autant de fun créatif avec un scénario depuis Incendie. Alors j'en garderai quand même ce savoir quelque part. C'est donc un article signé Odile Tremblay qui accane Denis Villeneuve en son palais. Les framboises québécoises sont arrivées. Stéphane Champagne, aficionado de petits fruits et autres adeptes d'achat local, vous serez ravis. Production Horticole de Mers procède actuellement à la récolte de framboises dans son complexe séricole de Saint-Nicolas, près de Québec. Quoi? Des framboises québécoises en cette saison? Eh oui, pour les deux prochains mois, plus besoin de se rabattre sur les framboises importées grâce à cette initiative qui serait une première canadienne. De Mers, connu pour ses tomates, poivrons et concombres en serre, travaille sur ce projet depuis au moins 5 ans. Après une flopée d'essais et d'erreurs, le producteur en serre a enfin trouvé la bonne variété dont il préfère taire le nom et la bonne méthode de culture. Résultat, la PME exploite en ce moment environ 1 acre de framboisier dans un environnement contrôlé. Personne au Québec, au Canada, sinon en Amérique du Nord, ne peut se targuer de cultiver autant de framboises en serre, soutient Jacques Demers, PDG de l'entreprise. Les petits fruits charnus sont déjà offerts au stand de Demers à Saint-Nicolas, dans des fruiteries montréalaises, de même que dans certaines succursales des 3 grandes chaînes de supermarchés, Loblaws Provigo, Metro et Sobeys IGA, lesquelles se sont montrées très enthousiastes, explique M. Demers. Le prix de vente devrait avoisiner les $3,99 pour une barquette de 120 grammes. Semblable en apparence à celle cultivée en Californie et au Mexique, quoique légèrement plus foncée et sucrée, la framboise de chez Demers sera par contre d'une fraîcheur inégalée. Nos fruits seront sur les tablettes entre 24 et 48 heures après leur récolte, assure l'agronome entrepreneur. Après les framboises extérieures de l'été prochain, Demers se prévoit récolter d'autres framboises dans ses serres en octobre, novembre et décembre prochains. Si la demande est là et que l'expérience s'avère rentable, dit-il, Jacques Demers souhaite quintupler la superficie de ses framboisiers en serre. Bref, il sera désormais possible de consommer des framboises québécoises 8 mois par année. Par ailleurs, l'homme d'affaires n'exclut pas la possibilité de cultiver également des mûres dans ses installations. À suivre! Merci d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une agréable journée. Restez avec nous dans un petit moment, j'anime les par actualité. Merci Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical. Je vous retrouve tout de suite ou demain. À bientôt.